Nous sommes le jeudi 12 mars 2026. Il est 21h et quelques toutes petites minutes sur Radio Canu sur 2.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Ça va ?
Ça va et toi ?
À l'heure ?
Toujours.
Ouais. C'est
j'avais,
ça.
J'avais une discussion inattendue et très intéressante.
Oui, oui, non mais on peut. En plus, Romain, on lui a dit d'arrêter de faire exprès de laisser sa scène de fin pendant une plombe pour faire ses 6 heures de stream réglementaire. Force est de constater qu'il continue cette honteuse pratique. Bravo à toi.
Au bout de 6 heures, un quart d'heure de plus, un quart d'heure de mon chat en plein écran, écoute, je pense qu'on est bien.
Ouais, voilà, donc oui, globalement, Romain, on peut compter sur toi pour rien en fait, ça fait plaisir.
Écoute, non, là j'ai vraiment enchaîné en 10 minutes des discussions super intéressantes avec des gens qui avaient. Enfin, avant de cette émission, ça a été compliqué d'arriver tout court.
Eh ben écoute, merci à toi de prendre le temps de venir nous parler, c'est gentil. Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
On vient de voir les premiers jeux de l'Indie Game Lyon qui s'annoncent petit à petit sur les réseaux.
Mais non.
Et franchement.
Et
de ce que j'ai vu, la sélection est au moins aussi prestigieuse que la catégorie jeu de l'année des Pégases.
J'en ai annoncé que deux pour l'instant.
Trois. Oui, je fais des recherches avant
c'est
l'émission.
Bien, c'est bien.
C'est quoi le Indie Game Lyon ?
Oh non.
Ça suffit. Hein. Ça suffit. Au sommaire de cette semaine, on aura deux sujets. Nous allons brièvement revenir sur la cérémonie des Pégases qui a eu lieu jeudi dernier. Et nous allons jouer à plusieurs démos des jeux participants à l'événement Steam Next Fest ou Steam Neo Fest, ou ça dépend en fait.
Si on regarde Steam en VO, en anglais, c'est le Next Fest. Si on regarde Steam en français,
c'est Neo.
C'est le Neo Fest.
Voilà.
Visiblement, on est les seuls. Hein.
C'est ça.
On va avoir un nom différent.
Et je sais. Oui, mais parce que Very Bad Trip, qu'est-ce que je te dise ?
Exactement. Sex-intention.
Qu'est-ce que je te dise ? Au bout d'un moment, c'est comme ça. Mais d'abord, des nouvelles des gens qui font des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours. Bettina, je te laisse la main.
Oui, merci. Donc, je vais vous parler ce soir de Reactivated de Combustible Melons qui est sorti sur Steam le 28 janvier parce que l'un de ses devs, et pardon si je le prononce mal, je ne sais pas comment il faut le prononcer, qui s'appelle Tesseli Akintung, est originaire de Chypre mais vit à Lyon depuis 2 ans. Donc voilà, ça rentre dans ma chronique.
C'est le terre-terre, c'est ici.
Exactement.
Très bien.
Et donc, Reactivated est un puzzle platformer en 2D. On contrôle un petit robot volant qui doit aider en fait un autre robot plus gros à atteindre la sortie de chaque tableau. Et donc, avec notre petit robot, on interagit avec des leviers et des boutons pour ouvrir la voie à l'autre gros robot. Et également, on interagit avec le tableau de commande de ce fameux grand robot pour lui indiquer s'il doit avancer, s'arrêter, sauter et dans quel ordre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on résout les petits puzzles. C'est donc un petit jeu qui comporte 20 niveaux et il y a une démo dispo si vous voulez le tester, et sinon il coûte 7,99€ sur Steam.
Cool, c'est vrai qu'on est sur un genre de puzzle platformer un peu comme, alors je sais pas comment il se prononce, j'imagine Chenille ou
Oui.
Ce genre de choses, voilà.
Ouais.
Un des excellents jeux indés de l'année dernière.
Oui, c'est ça, et j'ai l'impression que c'est un peu cet esprit-là, en tout cas visuellement il y a quelque chose qui le rappelle.
Ouais. Et donc world premiere ce soir, c'est un des exposants de Indie Game Lyon que je n'ai pas encore annoncé sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je voulais en parler ce soir puisque son jeu est sorti sur Steam.
Tu disais le 28 janvier ?
Il est sorti le 28 janvier, okay. Ouais.
C'est ça. Et vu qu'ici on n'aime pas l'humour de répétition, c'est quoi l'Indie Game
Lyon ? Attends, mais c'est pas fini, on en va reparler.
Oui.
Ouais, j'ai un truc à vous dire à ce sujet.
Très bien. Merci beaucoup Bettina. Donc je vous propose, messieurs, dames, de parler un petit peu des Pégases. Les Pégases, donc, qui se veulent comme les Césars du jeu vidéo, qui se sont déroulés donc, le 5 mars dernier. Romain, que faut-il retenir de cette soirée ?
Eh bien écoute, c'était la 7e édition donc, des Pégases, puisque en fait, je pense qu'ils essayent de se caler avec un certain événement lyonnais. Un certain salon du jeu indépendant lyonnais, l'Indie Game Lyon, qui va également vivre cette année sa 7e édition.
Mais oui, mais non, mais c'est
voilà,
sûr qu'il nous suivent.
Je pense qu'il fallait, voilà, il fallait se raccrocher à ça, bien évidemment. Donc oui, comme tu l'as dit, effectivement, ça récompense les jeux vidéo français et aussi ils ont des prix internationaux.
Tu es en train de dire que Bettina, c'est notre Salomé Lagrelle, c'est ça ?
Alors non, parce que Salomé Lagrelle est la présentatrice, n'est pas l'organisatrice.
Ah, c'est vrai.
Créé donc à l'image, à l'origine, sur le modèle des Césars, comme il l'assume et comme il le revendique en tout cas sur les premières éditions, la cérémonie donc attribue aujourd'hui 18 prix par les professionnels de l'industrie inscrits à l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo, un organisme créé en 2019 par le SNJV pour précisément pour les décerner. Si l'Académie comptait 1000 membres fin 2019, les votants étaient 3000 en 2025, donc je crois qu'on est à peu près dans les mêmes eaux encore aujourd'hui. Ils seront bientôt donc plus nombreux que les travailleurs de l'industrie du jeu vidéo en France, vu le rythme des licenciements et ce qui se trame actuellement chez Nacon, qu'on n'a pas encore.
Rendez-vous pour une prochaine émission, voilà, par rapport exactement à Nacon, Big Ben, tout ça. Il y a plein de choses à dire.
Ça risque de se décanter. L'événement donc est soutenu par le CNC et en novembre 2025, le formulaire d'inscription donc pour soumettre son jeu indiquait qu'il fallait donc s'acquitter de frais de soumission d'un montant de 200 euros.
Ce qui est le cas, ce qui était le cas depuis toujours.
Voilà, depuis quelques années, même si effectivement certains organismes comme Win Games avaient des entrées gratuites entre guillemets, pouvaient permettre en fait à des jeux d'être présentés. Le SNJV en fait fournissait des entrées gratuites à différents organismes, dont le Win Games, c'est celui auquel je pense en premier. Je sais qu'il y en avait d'autres.
Et je sais qu'il y a d'autres boîtes aussi qui, je me souviens de discours notamment de, alors je sais plus malheureusement quel développeur faisait ça, mais proposait en fait de donner,
de payer
des inscriptions gratuites, de payer les inscriptions de personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de mettre leur jeu dans la compétition.
Tout à fait. Donc cette édition était à nouveau, comme depuis le début finalement, présentée par Salomé Lagrelle, donc la journaliste et ancienne animatrice de l'Energie 12, qui en est le visage depuis ses débuts donc. Et elle était cette année aussi diffusée sur Twitch par Samuel Etienne. Comme quoi, hein, ça évolue, ça prend de...
C'est le seul qui l'a...
En tout cas, la version officielle, ouais.
Ah, officiellement, voilà. Ok.
Oui, oui.
Après, derrière, vu que c'était diffusé sur Twitch comme sur YouTube, tout le monde pouvait réagir, mais enfin...
Ouais, ouais.
Là, c'était vraiment...
Ah non, mais écoute, Samuel Etienne, on le voyait partout, entre les Pégases et puis la commission sur l'audiovisuel public.
Oui, effectivement. Oui.
Très intéressant.
Tout à fait. On va faire un petit peu de name dropping, parce qu'on avait dit qu'on en parlait relativement rapidement, donc on va faire un petit peu le tour des lauréats. Le grand prix du meilleur jeu qui a été décerné, à la surprise d'absolument personne, à Clair Obscur Expédition 33, donc de Sandfall. Qui gagnait également trois autres prix, excellence visuelle, sonore et narrative. Et d'ailleurs, au passage, on vient d'apprendre, je crois, c'est aujourd'hui même, qu'il a 12 nominations aux BAFTA Game Awards, qui sont les récompenses britanniques du jeu vidéo. Mais il n'était pas dans les nommés pour le meilleur jeu indépendant, qui était donc attribué à Absolum de Guard Crush, Supamonx et Dotemu, qui prend aussi au passage le prix du meilleur jeu, du meilleur game design.
Je suis très content pour Supamonx de manière générale, qui est à la base un tout petit studio d'animation uniquement, lillois. Je les ai vus faire des petits clips pour des tout petits groupes et tout ça, et monter petit à petit et pour faire et se diversifier là pour faire du jeu vidéo excellent. Et puis franchement, Absolum, d'un point de vue en tout cas animation et graphique, il y a vraiment un truc. Oui. Moi, le jeu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par le gameplay. Moi, ça m'a moins convaincu. Okay. Par contre, vraiment graphiquement et sur le côté aussi transmédia, j'espère qu'on pourra revenir un jour dessus sur le côté quand il y aura une série et tout ça.
Mais je pense qu'ils ont un succès qui leur permet effectivement d'envisager du contenu supplémentaire.
Ouais,
Je sais pas une suite, des DLC, je crois que c'est prévu.
Ouais.
Mais voilà.
Voilà, un truc comme je dis un peu transmédia,
ouais, d'autres,
avec des web-séries, des trucs comme ça. Ça serait vraiment cool parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière.
Le prix du premier jeu vidéo a été, alors c'est intéressant aussi, a été.
Pas dit que Absolum a aussi eu le prix du meilleur game design.
Si, je l'ai dit au passage. Aussi au passage le prix du meilleur game design, mais il m'a coupé.
Ah,
il est arrivé à ce moment-là.
Tu as été coupé et par Xavier.
Mais je l'avais dit.
Très bien. Voilà. J'ai pas entendu.
Et c'est mérité aussi, encore une fois. Comme tu le disais, effectivement, le gameplay convainc ou convainc pas, mais il a quand même...
Pour du beat'em all, je pense que c'est très bon. C'est voilà. Juste que moi, étant pas très fan de trucs de beat'em all, forcément, voilà.
Il n'y a pas de, de règles, encore une fois. Hein, c'est des prix qui sont donnés à des jeux... On n'est pas forcément obligé de les aimer tous. On n'a pas forcément tort si on les
ça
aime pas.
Ça reste subjectif
ou à l'inverse,
de toute façon.
Je disais donc, ouais, le prix du premier jeu vidéo a été donné donc à The Rock Prince of Persia par Evil Empire. Evil Empire, ce studio de Montpellier, donc on connaît déjà pour autant, parce qu'ils avaient sorti des DLC pour Dead Cells en collaboration avec Motion Twin, mais ils n'avaient pas encore de jeu à leur nom. C'est leur premier jeu à leur nom, et c'est pour ça qu'ils ont eu ce prix. Et d'ailleurs, c'est quand même un studio à qui Konami a confié le prochain Castlevania.
Oui, et puis,
la preuve qu'ils savent quand même de quoi ils parlent.
Avec plein de vétérans du jeu vidéo aussi. C'est
le premier jeu de ce studio.
Oui, voilà.
C'est
oui.
Le principe en fait du premier jeu
voilà,
de ce studio. C'était pareil pour Senfall avec.
Oui, bien sûr. C'est juste que quand on dit premier jeu vidéo, c'est pas exactement comme prix d'un jeu étudiant, etc.
Oui, voilà.
Il y a effectivement le prix d'un jeu étudiant, mais on en reparlera.
Voilà.
C'est pas des juniors, c'est des gens qui sont expérimentés.
C'est ça.
On a également Wednesdays de Pixel Hunt, Pierre Corbinet et Arte à l'édition, qui gagnent le prix au-delà du jeu vidéo, ainsi que la meilleure accessibilité. Rematch de Slow Clap repart avec le prix de l'innovation technologique. Ouais. Les Villeurbanais de Pastèque Games gagnent le prix du meilleur service d'exploitation, comprendre le suivi du développement avec du nouveau contenu régulier.
Ravenswatch.
Ouais. Absolument. Et les prix des jeux étrangers vont à Hades 2 pour le meilleur jeu. Et à Silksong pour le meilleur jeu indé, où était aussi nommé Hades 2. Bref,
c'est assez étonnant. Enfin,
oui, bon. C'est bon.
Mais après, tu vois, quand tu parles notamment de Rematch, quand tu parles de Ravenswatch et tout, il y a un côté où on va donner les plus gros à ceux qui sont évidents, et il y a un côté après distribution des prix, école des fans un peu. Mais bon.
Un poil.
Ça me paraît logique, hein, mais voilà.
Oui, puis, enfin, je sais pas, je la trouve étrange, ces catégories étrangères, justement, d'une cérémonie. Ouais, on est sur une cérémonie qui justement veut mettre en avant les productions françaises, et du coup là on a plusieurs catégories étrangères. Oui. C'est un peu bizarre.
Alors,
je sais pas.
C'est assez régulier.
C'est la même chose dans les Césars.
Ouais,
pour le coup, il y a aussi le César du meilleur film étranger chez Cannes.
Et à l'inverse, par exemple aux Oscars, il y a l'Oscar du meilleur film étranger de la même façon. Okay. Et de la même façon, je crois qu'il y a aussi je crois que c'est au BAFTA justement qu'il y a étranger en britannique. Il y a voilà, c'est pas surprenant, c'est quelque chose qui se fait déjà un petit peu. Vous aviez aussi un jeu, je sais pas, c'est le jeu étudiant.
Non, c'est le jeu mobile.
Le jeu mobile, pardon.
Ouais. Le jeu mobile, les Murmures du Soleil.
Ouais.
Je sais pas si tu veux partir
non,
là-dessus.
Non, en fait, je voulais juste rebondir dessus. Donc meilleur jeu mobile, effectivement. Attribué au Murmure du Soleil, qui est donc un jeu créé par un solo dev. Et en fait, son intervention était hyper touchante quand il a reçu son prix, et son discours était vraiment super. En tout cas, voilà, ça m'a beaucoup touché. Il s'attendait vraiment pas du tout à recevoir un prix. Ça se voit qu'il est complètement surpris et submergé d'émotions. Et son jeu, alors je ne le connaissais pas, ça a l'air vraiment super.
Moi, j'y ai joué, ça m'a fait vraiment très très plaisir. J'y avais joué il y a quelques temps.
Ouais.
C'est un jeu gratuit de 1.
Ah, donc si, c'est bien celui dont tu nous avais parlé une fois.
C'est ça.
Okay.
Les Murmures du Soleil, c'est un FPS adapté pour les personnes malvoyantes.
En fait, je me rappelle que tu en avais parlé, mais j'avais pas du tout retenu le nom.
C'est vraiment un très bon jeu.
Donc, gratuit.
Jeu mobile gratuit et qui est accessible pour les personnes malvoyantes.
Ouais.
Je dis malvoyante exprès et pas aveugle c'est normal parce qu'il faut que vous jouiez au jeu pour bien comprendre le truc. Mmh. Vu qu'il faut quand même avoir une notion de haut, bas, gauche, droite.
Ouais.
Quand même.
Bah justement, j'allais dire, c'est qu'en fait, on incarne une personne justement atteinte de déficience visuelle, et on doit se repérer au son en bougeant son téléphone.
C'est ça.
D'accord.
C'est voilà. Ça.
Ok. Quelques mentions des nominations sans récompense, quand même, parce que ça montre un peu la richesse de la production française en 2025, je trouve. En tout cas, c'est mon ressenti là-dessus. L'excellent City Builder Plant B Terraform de Gadi, l'original Tetris Roguelike Drop Duchy de Sleepy Mill, ou Crown Gambit de Wild Wits ont été nommés dans différentes catégories sans obtenir de prix. Et voilà, je voulais quand même les citer parce que c'était quand même
assez
incroyable. Il y a Shepherd également, effectivement.
Le jeu des petits chiens.
Effectivement. On peut retrouver tous ces jeux sur une page Steam dédiée à l'événement. Nudge Nudge pour une page Steam Indie Game Lyon. Nudge, nudge. Il n'y a pas besoin, effectivement, d'être un éditeur ou un studio pour créer une page Steam.
Oui, bah écoutez, je fais ce que je peux. Hein.
Voilà. Moi, je dis ça. comme ça.
Non, c'est en cours, c'est en cours, mais c'est compliqué.
Voilà. Mais effectivement, c'est la page Steam. Alors, je l'avais pas spécialement vu, moi qui suis un petit peu ça de près, je l'avais effectivement pas vu. Je l'avais pas mise en avant dans mon émission du mercredi. J'ai vu ça en fait à travers l'interview de Vanessa Kaplan du SNJV dans une interview au CNC, donc partenaire de l'événement. Et petite chose également intéressante à mettre en avant et dont on va parler un petit peu là maintenant, cette année est également mis en avant quatre jeux à venir, quatre jeux pas encore sortis, une initiative intéressante dont, pour moi en tout cas, c'est la première fois que c'était le cas au Pégase, dont je ne connais pas non plus les dessous ni le fonctionnement. Est-ce qu'il fallait demander, est-ce qu'il fallait payer, est-ce que c'est un choix des membres de l'académie pour mettre en avant ces jeux-là. En attendant, effectivement, il y a quatre jeux qui ont bénéficié donc d'un coup de projecteur assez important finalement, parce que ça reste un assez gros événement, les Pégases. Et je vais commencer par le premier, qui lui n'a pas encore donc de page Steam, qui s'appelle Pila. Pila, qui est le nouveau jeu qui est le premier jeu et nouveau jeu finalement du studio Pépin Kojo, le nouveau jeu du créateur de Dordogne. Après la fermeture de Umamimation et sa branche un je ne sais quoi, les studios, enfin les différentes entités derrière le jeu Dordogne. Le jeu Dordogne qui fut un coup de cœur critique incroyable, mais avec un trop faible succès commercial pour survivre. Ouais. 60 000 ventes estimées sur Steam, visiblement c'était pas assez, mais en tout cas le réalisateur Cédric Babouche et sa DA sur Aquarelle,
oui.
Revient donc avec un nouveau studio donc franco-japonais, donc Pépin Kojo, collaborant à nouveau avec le japonais Tatsuya Furuhata, qui avait déjà bossé sur Dordogne, avec donc ce nouveau jeu Pila, oui, comme la dune, non, pas celle de Villeneuve. Ça se passe en 2020 dans le bassin d'Arcachon, sans trop de surprise.
Oui, dune du Pila au bout d'un moment.
Voilà, hein, forcément. C'est toujours aussi ouf visuellement, très oui. Clairement. Hein. C'est incroyable ce travail sur le visuel et sur les
aquarelles. En fait, c'est ouais. Littéralement les aquarelles de Cédric.
Tout à fait.
Qui ensuite sont travaillées pour créer, pour en faire des choses en 3D, pour pouvoir en faire.
Des choses interactives en 3D.
Voilà.
Enfin, voilà.
C'est ça.
Et alors, on est quand même sur une ambiance bien plus sombre.
Ouais, c'est bien. Je suis préparé à ce qu'ils mettent encore plus par terre que Dordogne, parce que ouais. Dordogne sur ce côté, oh, c'est aquarelle, c'est mignon, et ben accrochez-vous quoi.
Voilà. Ah ouais. Je vais quand même te mettre un coup de pelle à la nuque.
Mais voilà, c'est fun. Voilà.
Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Bon, voilà.
En fait, justement, je m'étais comme il y a un gros trigger warning au début de Dordogne, je m'étais vraiment préparé au pire et tout. Ah ouais. Et finalement, bah, en fait, ça va.
Mais c'est parce que t'es un monstre sans cœur.
Mais pas du tout. Mais pas du tout.
Tu veux qu'on ressorte certaines de tes déclarations?
On a encore les sons.
Mais en tout cas, voilà, le jeu, bon, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que sera le jeu pour l'instant. Il n'a pas encore de page Steam ni de.
Ouais, moi aussi, vraiment.
Mais à suivre, effectivement, on peut déjà s'inscrire à la newsletter sur leur site, pour le site de Pépin Kojo, pour suivre un petit peu ce qui va arriver par la suite. Donc, une des grosses annonces, effectivement, le retour de Cédric Babouche, principalement. On avait également Painted Kingdoms, Tower Defense and Firefighting, un jeu de stratégie minimaliste dans lequel on défend son royaume en peinture de la menace d'ennemis enflammés, avec une lance à incendie et différents moyens liquides. Entre le Tower Defense donc, et le top-down shooter, assez sympa visuellement, assez réussi.
Ouais, j'aime bien la DA, c'est pas mon genre de jeu normalement, mais je me renseignerai pour voir.
C'est un studio, donc le studio Hectic, un studio bordelais, qui a sorti le totalement inconnu Los Pingueros en février 2025 jusqu'ici. Voilà, ils ont 25 évaluations sur Steam, donc je pense qu'ils en ont vendu 40. Profite d'une belle visibilité, donc, et qui propose également une démo. À l'occasion donc de cette mise en avant. Pour l'instant, pas encore de date de sortie. C'était le deuxième jeu qui a été mis en avant au Pégase. Le troisième, c'est Tokens, un roguelike deck builder où les cartes sont remplacées par des jetons dont la face jouée sera plus ou moins aléatoire, parce qu'un jeton a deux faces et au moment où on la joue, en fait, ça va se tomber d'un côté ou de l'autre. Avec plein de moyens de modifier les scores atteints dans une logique balatresque, donc évidemment à la Balatro. Donc on peut évidemment intervenir sur les chances de que ça tombe de tel côté, on peut modifier ça à la volée, on peut modifier les combinaisons. La démo montre bien le concept. Je trouvais le tuto assez mal foutu parce qu'il est beaucoup trop long en fait pour comprendre un peu le truc. Il a fallu quelques parties pour comprendre le principe, mais en tout cas c'est bien qu'il y ait une démo de dispo aussi pour ça. Je suis peut-être moins accroché par la DA pour le coup, qui me semble un peu plastique, surtout que c'est fait par l'atelier QDB, donc le studio de Quentin de Beuclair et trois autres personnes d'après LinkedIn, qu'on avait déjà vu invité dans un peu partout à l'époque, en fait, notamment une émission de Canard PC, moi c'est là que j'avais découvert, pour le précédent jeu du studio qui s'appelait Decarnation, un jeu d'aventure horreur dans un pixel art qui, moi, me parle en tout cas, pour mes goûts personnels, avait beaucoup plus de personnalité. C'était en tout cas complètement mon avis personnel.
Alors pour Decarnation, j'ai un mot: burk.
Alors on était effectivement sur quelque chose de très dérangeant, je dirais, entre l'horreur et le dérangeant. Mais par contre, il y avait quand même un sacré taf sur le visuel.
Mais il y a de la barbaque surtout.
C'était quand même très très charnel. très charnel, cette histoire.
Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, je suis d'accord. Il y a des choses beaucoup plus assumées, beaucoup plus tranchantes.
Ça me parlait plus. C'est très personnel. Et par contre, j'ai bien aimé le concept du jeu quand j'ai fait la démo. À partir du moment où j'ai compris le principe, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par comprendre.
C'est vrai que la DA là fait très au kilomètre.
Pas de date de sortie, mais annoncé pour 2026, donc cette année. Et je termine avec donc le quatrième jeu, Wonderfall, un jeu déjà présent sur Steam depuis août 2025, dont j'avais déjà vu un petit peu les images. Un jeu du studio parisien de 5 personnes, Attaboy Interactive, qui explore un Paris en ruine consumé par l'entropie et le sable. Visuellement très sympa, des beaux environnements. Il faut voir un petit peu la narration et le gameplay qui sera derrière. De ce que j'ai compris, ça semble s'orienter vers du platformer infiltration.
Puzzle platformer façon Inside.
Ok.
Apparemment. Mais j'imagine avec un peu plus de mécanique de ce qu'on a vu notamment dans le trailer avec.
Surtout de la vue à la troisième personne qui implique un petit peu aussi de la profondeur.
Un côté 2,5D, on va voir ce que ça donne.
Mais voilà, peu d'infos pour l'instant, mais du coup, voilà, ils ont profité de ça pour en reparler. Et voilà. C'était ce que j'avais à vous dire sur les Pégases.
Moi, je voulais juste dire que historiquement dans cette émission, on a souvent été assez critique sur la tenue des Pégases, notamment sur ce que ça disait pas, notamment sur l'état de l'industrie et tout ça. Là, ça fait 2 années, parce que l'année dernière où c'était Prince of Persia Lost Crown, et là cette année avec Expédition 33, où il y avait quand même à chaque fois des interventions, des mots sur l'état de l'industrie, sur des choses qui vont moins bien, et qu'au début il y avait quand même un côté de on met tout derrière le tapis et c'est les paillettes uniquement, quoi. Et là, je trouve que quelque chose de plus équilibré. C'est pas encore c'est pas encore équilibré. Tu peux pas avoir un caravane sandwich tous les ans, on va dire. Mais on va dire que c'était quand même assez équilibré sur cette cérémonie et
sur la façon d'aborder ça.
Voilà.
Ok. On va voir du coup la prochaine. On va peut-être dans 3 ans, ça sera peut-être un truc de gauchiste avec le STJV partout.
Oui, bien sûr. on y croit tous.
Absolument.
On y croit tous.
Toujours présenté par Salomé Lagrange. Voilà, bien évidemment.
Ça reste le SNJV derrière, donc il y a peu de chance.
Ce sera les Tencent Pegasus, ce sera super.
Après la chute d'Ubisoft.
Oui, très bien. Non, Ubisoft qui s'appellera Tencent Ubisoft, puis Tencent tout court.
Exactement. Et NetEase qui aura acheté Quantic Dream aussi.
Tant qu'à
son nom dessus.
Voilà, tant qu'à faire, ce sera bien.
Bien, bien.
Merci Romain.
Écoute, de rien, et merci pour vos interventions également enrichissantes sur le sujet.
Eh bien, écoute, je vous propose de passer au deuxième thème de la soirée, qui est le Steam Next Fest, celui qui a eu lieu donc entre février et mars. C'est cette grande semaine où la plateforme de distribution de jeux PC Steam a mis en avant des centaines, je dirais même des milliers, de démos jouables.
3005 à peu près environ. Oh,
quel enfer.
Le but du jeu, c'est pas de jouer à toutes. Hein.
Non.
Heureusement. Voilà. Heureusement.
Il aurait pu en avoir 5000, t'aurais pas joué à plus de jeux.
Sachant que je crois que c'est les gens du Future Game Show qui s'étaient mis en tête, on fait un stream pendant une semaine où on joue à toutes les démos.
C'est vrai. Ils sont morts au milieu.
Ils ont surtout pas réussi.
Ah oui, évidemment.
Voilà.
Évidemment.
L'édition de ce début d'année s'est tenue entre le 23 février et le 2 mars. Bien évidemment, l'équipe du Nerf de la Game en essayait un petit paquet et on va essayer de vous présenter ce qui a retenu le plus notre attention. Bettina, je te laisse commencer.
Allez, très bien. Je vais commencer par un name dropping en bonne et due forme, puisqu'en fait, j'ai envie de vous citer justement les jeux de la commu des devs locaux que j'aborderai dans les futures chroniques. Voilà, je fais du teasing.
En fait, les prochaines émissions, ça va simplement être un tremplin pour l'Indie Game Lyon, on est d'accord?
Ils sont pas exposants à Indiegamo, ceux que je vais citer.
Voilà, donc c'est ceux, c'est pas bien.
D'après.
Voilà, ouais. C'est pas bien.
Donc ouais, je voulais. Donc j'ai vu qu'il y avait pendant ce Steam Next Fest la démo de Crushed in Time du studio villeurbanais Dromy & Pixel, donc ceux qui ont fait There Is No Game, donc c'est leur second jeu. Donc c'est un point and click humoristique avec Sherlock Holmes et le Dr Watson.
J'ai fini récemment There Is No Game après beaucoup de temps. C'est un jeu absolument incroyable.
Ah, c'est pas pour rien qu'il s'est vendu à plus d'un million.
Oh là là, il est incroyable ce jeu.
Plus d'un million de ventes. Hein,
mais il est fou ce jeu, c'est génial, vraiment.
On attend la suite, du coup, la suite spirituelle.
Oui, parce que là, du coup, c'est pas le même genre de jeu. Enfin, bon, on verra. Ensuite, je voulais vous citer Chop Chains du solo dev Alexis Jelin, qui est un jeu incrémental où on coupe du bois. Voilà, vous irez voir. Ou alors vous attendrez ma prochaine chronique.
Tu l'as tellement bien vendu.
Ouais, non, mais je vous en dis pas plus. Ensuite, je voulais citer Far Far West du studio lyonnais Evil Raptor. Donc, c'est son nouveau jeu. Ils ont fait Akimbot et encore auparavant, c'était Pumpin' Jack. À l'époque de Pumpin' Jack, Nicolas Messonnier était solo dev. Il avait quasiment tout fait tout seul, je dis quasiment hein, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il s'est fait aider et puis la musique c'était pas lui, et derrière il a fait un studio il est pas tout seul, je sais pas si c'est une scope, j'en sais rien, je sais pas s'il a co-créé le studio, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est son studio qui a sorti Akimbot et donc Far Far West, nouveau jeu, un jeu de tir coop à 4 joueurs. Ensuite il y a 7 que vous devez connaître puisqu'ils ils ont été exposants deux fois à Indiegamo.
Oui, déjà il y a déjà 2-3 ans maintenant.
Le Hades en FPS, mais côté Égypte.
C'est ça. Absolument. Donc le studio lyonnais Chaotic Games, un fast FPS roguelite où on affronte les légions d'Apophis. Voilà.
Apophis.
J'étais pas prête. et donc, cette fois-ci, je vais vous parler.
Je coupe ton micro, hein, d'accord.
Plus
jamais. Hein.
T'aimes pas les Goa'uld, c'est ça?
J'ai fini mon name dropping. Du coup, je vais vous parler de. En tant que grosse weeb qui s'assume, je vais vous parler de Incombini, un jeu narratif de gestion de supérettes dans une petite ville japonaise. Ça a l'air absolument génial. Enfin, la démo est très très cool et du coup, j'ai juste trop hâte de faire la suite. Donc, il faudra gérer les tâches quotidiennes, assurer la bonne tenue du magasin et aider les clients. Mais le jeu met l'accent sur les conversations, offrir un mot gentil, un conseil ou simplement faire preuve d'écoute. L'expérience est vraiment sur la détente et non sur le productivisme, contrairement aux jeux de gestion de magasins en général.
Mmh. Genre Discounty.
Il y a des trucs, il y a plein de trucs de supérettes, des trucs comme ça,
les supermarchés simulateurs. Je pense à Discounty parce que c'était justement celui qui allait en mode un petit peu cosy, un petit peu mignon. Puis en fait, c'était le capitalisme à fond, quoi. Ouais, c'était assez rigolo. Là.
Et puis en plus, ouais, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de jeux de mots et de références à des produits et des marques qui existent réellement. Donc si on a les refs, c'est assez marrant. Et
si on est weeb, c'est marrant.
Ouais,
c'est,
voilà.
C'est que des trucs qui existent au Japon.
Oui, c'est que des trucs japonais. Okay, c'est vraiment le Combini. C'est vraiment la supérette japonaise avec du coup des refs de marques japonaises, etc. Okay. Donc voilà, les Combini et le Japon me manquent.
Ce que. On l'a vu.
On a vu la larme.
Ça chiale. Écoute, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est. Alors, moi, je suis pas très jeu de gestion, mais j'ai bien aimé la partie discussion qui m'a fait beaucoup penser. Peut-être pas à ce point-là, peut-être pas développé à fond, mais un truc un peu coffee talk où tu vas.
Je l'ai pas fait encore.
Je te le conseille. Vraiment très bien.
Ouais.
Où justement tu vas discuter avec les gens et des fois en fait tu vas dire vas-y c'est un jeu vidéo, viens me demander de résoudre des problèmes, et des fois c'est juste taper à discuter tranquille.
Ouais,
en fait.
C'est ça.
C'est ça que j'ai bien aimé dans Incombini. Il y a plus le côté vas-y. Le jeu te propose un challenge, non? Le jeu, il te dit, vas-y, tape la discute, j'ai des personnages et tout ça, puis c'est cool. Franchement, c'est ça que j'ai bien aimé. Après, voilà, le côté gestion est pas extrêmement poussé non plus, donc ça va.
En tout cas, dans la démo, pas du tout. Je sais pas comment ça va être ensuite. Peut-être il y aura des features qui vont se rajouter au fur et à mesure, mais vraiment juste. Non, puis tu peux ranger les articles dans les étagères, tu les alignes quand les boîtes elles sont pas parfaitement alignées et tout. J'adore
la satisfaction.
J'entends a little to the left. Tu aimes le chat?
Tu viens tout foutre en l'air.
Merci Bettina. Romain, de quel jeu tu vas nous parler?
Ben moi, je vais parler d'un petit jeu indé, d'un tout petit jeu indé qui pas du tout connu, Vampire Crawlers, The Turbo Wildcard from Vampire Survivors. Mm-hmm. C'est donc un deck builder dungeon crawler en vue FPS entre guillemets, avec évidemment, comme son nom l'indique, les pouvoirs et les ennemis de Vampire Survivor, puisque c'est développé par Poncle, le studio aujourd'hui, à la base fondé par Luca Galante, le solo dev qui a créé Vampire Survivor et qui a aujourd'hui fondé donc un studio de plus de 25 personnes.
Ah oui.
Au Royaume-Uni, et qui donc travaille sur Vampire Crawlers avec le studio Nosebleed Interactive, lui aussi basé au Royaume-Uni. Donc on est toujours sur le même pixel art de qualité.
Pardon.
Voilà. Non. Ça travaillait justement, parce que tu travailles sur la profondeur.
C'est moins moche.
En vue FPS.
Mais c'est moins moche. C'est le mode 7 de la,
voilà, de la Super Nintendo. Donc, on est revenu en 92.
Voilà. C'est-à-dire que sur le premier, on était en 86.
Voilà.
Et maintenant, on est en 92. Merci, Poncle.
Exactement. Toujours ce système, en fait, cette efficacité à créer des machines à dopamine qui rendent addict, avec une proposition intéressante même par rapport au deck builder en général, avec celle du bonus accordé si on joue les cartes dans un certain ordre. Donc en fait, les cartes ont une, on va dire, on retrouve les armes et les attaques de Vampire Survivor et elles vont se voir attribuer un chiffre. Et si on joue les cartes dans l'ordre de ces chiffres 1, 2, etc., il y a des bonus supplémentaires qui viennent se rajouter. Donc il y a des mécaniques internes à tout ça qui rendent le truc encore plus efficace. Différentes attaques qui sont... on va retrouver en fait des groupes d'ennemis, un peu comme dans Vampire Survivor, on voit des vagues d'ennemis. Et on a des attaques qui vont cibler un ennemi en particulier, il faut faire énormément de dégâts d'un coup, ou des attaques qui vont cibler à peu près tous les ennemis d'un coup avec des petits dégâts. Donc en fonction de ça aussi, on va utiliser tel ou tel, ou maximiser en tout cas nos attaques en fonction de ce qu'on rencontre, et on se promène dans une carte comme un dungeon crawler, donc comme ces jeux d'exploration de donjons, où on avance case par case, pour, comme là aussi dans les années 80-90, hein, clairement, où on explore donc ces lieux pour découvrir, prendre de la puissance avec les combats, on gagne de l'expérience, et également trouver des trésors, et descendre de plus en plus profond dans cette histoire et aller chercher le vampire là où il est. Donc voilà, la démo est assez courte puisqu'elle permet de voir vraiment le tout début de ces mécaniques, mais elle montre bien tout le potentiel du concept et j'ai plongé droit dedans.
Eh ben ouais, non, mais en plus c'est bien.
Démo toujours dispo d'ailleurs, je précise,
oui,
au passage.
Oui, effectivement. Je sais pas si c'est le cas de Incombini encore d'ailleurs.
Je suis pas allé vérifier. Je crois que oui, mais je suis pas sûr.
Oui, parce qu'un truc qu'on dit pas par rapport au Steam Next Fest, c'est que le principe c'était effectivement de mettre une démo à disposition sur la semaine en question, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui mettent la démo plusieurs semaines avant,
oui.
Elle est dispo. Il y en a qui arrêtent pile à la fin
de la semaine,
il y en a qui le laissent encore après, il y en a qui arrêtent et qui le remettent après, enfin voilà, ça dépend.
C'est un peu particulier parce que tu peux te présenter qu'une seule fois, vraiment pour faire partie de la sélection, mais tu peux effectivement amener une démo qui est déjà dispo depuis quelques mois, quelques semaines, tu peux en créer une pour l'occasion, tu peux la laisser ensuite, mais la plupart du temps en fait c'est un festival qui sert surtout à mettre en avant les jeux qui vont sortir bientôt.
Ouais.
C'est vraiment le moment,
ouais,
en fait.
Ça, ouais.
C'est une mise en avant de trucs qui, attention, c'est là bientôt.
Normalement, c'est pas censé être le côté comme l'E3 à l'époque où ça sortira dans 2-3 ans, etc.
Voilà, là c'est vraiment le moment, en fait, quand tu présentes ta démo à ce moment-là, c'est que t'as déjà quelque chose d'assez près, que
tu fais
la dernière
ligne droite.
Oui, voilà, comme l'a fait Planet of Lana, qui est sorti juste après, quoi.
Ouais, voilà, vraiment. Voilà.
Planet of Lana 2, pardon.
Voilà. Pour pousser finalement, pour accompagner les ventes. Il y a des gens d'ailleurs qui avaient estimé, qui avaient calculé un peu l'efficacité du fait de suivre, de sortir juste après un Steam Next Fest pendant lequel tu avais ta démo à dispo. Enfin, voilà. C'est des techniques marketing qui sont...
Oui, c'est ça. Et puis souvent, pour les prods indés, en fait, tu mets des démos dispo le plus tôt possible, tu itères plein de fois ta démo, et puis, comme tu le dis, Romain, une fois que tu as vraiment une démo solide et que tu es sûr de toi, à ce moment-là, tu peux participer au Nextfest le plus proche de la sortie de ton jeu pour justement donner un max de visibilité. Ouais. Mm. Mais effectivement, c'est des démos qui sont déjà dispo avant.
Oui, ouais, pas toujours, mais ça arrive.
Mais
qu'elle soit mise à jour pour l'occasion.
Ça arrive aussi. Ouais. Donc, c'était donc Vampire Crawler, c'est ça?
Le nom exact, c'est Vampire Crawler, c'est Turbo Wildcards from Vampire Survivor.
Ok, donc
c'est beaucoup trop long. Hein.
Oui.
Mais on va l'appeler Vampire Crawler.
Vampire Crawler, ça ira.
Donc
voilà, donc le prochain roguelite qui va se vendre à des milliers et des milliers d'exemplaires.
Oui.
Après Mutagenix, après Slay the Spire 2.
Oui.
Tout ce le roguelite, ça va bien. Et moi, ça va pas.
Comme ça. Toi, tu adores ce genre de jeu. Tu regardes des gens qui achètent ça par centaines de milliers.
Ça va pas.
Sans comprendre.
Voilà, et donc c'est pour ça que je change complètement de style de jeu. Et que moi, je vais vous parler de The Ratline.
Yes.
The Ratline, donc un jeu développé par un studio indépendant anglais qui s'appelle Old Skip Games et qui a fait un jeu d'enquête qui se passe dans les années 70 où, en fait, on va traquer des nazis. Et des nazis, en fait, surtout qui, après la guerre, se sont reconvertis, se sont cachés, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Amérique du Sud, en Argentine en particulier, ou dans d'autres pays, et qui se sont fait oublier. Et en fait, le but, c'est de retrouver leur identité à partir d'indices qu'on va avoir. La démo présente trois recherches, on va dire, parce que c'est pas
que des individus, il y a eu plusieurs personnes.
Voilà, pas des affaires du genre un tel a tué un truc et il faut savoir qui a fait, c'est plutôt on te file deux identités et il faut se démerder pour essayer de trouver
ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et tout ça.
Sachant que, alors, je pense qu'il y a une partie très narrative, on est censé être juste un journaliste d'investigation, en fait, qui évidemment, comme n'importe quel journaliste d'investigation, n'arrive pas à avoir une vie saine parce que ça paye rien du tout.
Oui, puis c'est bien connu, quand tu fais ce genre de taf, tu bois du whisky, tu fumes des clopes.
Surtout
dans les années 70.
Ah, dans les 70,
oui, c'est vrai, en plus.
Ouais, c'est clair. Et le truc, c'est que, en fait, voilà, on est contacté par des gens qu'on ne connaît pas, mais qui te disent on a une liste qui s'appelle The Rat Line, en fait, de gens qui ont été on est passé par quelqu'un pour blanchir pas mal de personnes en passant à l'ouest, enfin en passant à l'occident. Il faudrait les retrouver. Et j'imagine que toute la narration sera aussi de dire, enfin, ça te révélera en fait ce qui va devenir de ces personnes parce que tu les auras identifiées. Est-ce que ces personnes vont mourir? Est-ce que ces personnes sont mises dans la justice? On n'en sait rien pour l'instant, tu vois. Mais à limite, ça, j'aime bien parce que Paper Please, tu fais ton taf, en fait.
Ouais.
Tu vois? Et puis les conséquences, on verra plus tard.
Moi, je fais que suivre les ordres, on la connaît, celle-là.
Oui, bah. Écoute, je trouve que c'est très à propos. Et
ah bah totalement.
Je trouve
c'est
que
pas pour rien.
Je trouve que c'est très à propos. Et au-delà de ça, ça ne marcherait pas si l'aspect déduction n'était pas extrêmement bien foutu. Et il est vraiment très bien foutu. Sur le côté, tu vas avoir des photos, tu vas avoir des registres, tu vas pouvoir téléphoner à des gens et récupérer des infos en posant les bonnes questions. Et par la déduction, arriver à des conclusions. Sachant que la démo, en tout cas, te donnait aussi un système d'indices et qu'il n'y a rien de pénalisant, en tout cas, d'un point de vue. Il n'y a rien d'un point de vue jeu vidéo, entre guillemets, qui va te dire. Il n'y a rien de ça, en fait. Le but, c'est d'y arriver, tu vois.
Ouais.
Évidemment, les trucs de la démo. En tout cas, les deux premiers cas de la démo sont plutôt simple à mon avis.
Oui, il te montre les mécaniques, quoi.
J'ai pas regardé le troisième cas parce que, en fait, je suis en mode, bah, ce jeu, dès qu'il sortira, je vais le bouffer, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine, en fait. Sur le premier, c'était vraiment tuto, et le deuxième, c'est une première affaire avec les deux frères et tout ça. Ouais, trop bien. C'est vraiment, vraiment bien. Enfin, j'ai fait, ok, ce jeu, t'es validé. Donc oui, The Ratline, pareil, on ne sait pas quand il sort, non. Malheureusement, et on n'a même pas un vague 2026, hein, donc on ne sait pas du tout quand il sort, mais extrêmement prometteur.
Mais encore une fois, vu qu'il est fait partie du Steam Next Fest, on peut envisager qu'il ne soit dans pas si longtemps
que ça. On va dire d'ici fin d'année à peu près, mais en tout cas, vraiment très prometteur. Je trouve que... excuse-moi, je dirais, je trouvais que c'est bien... moi, j'étais assez longtemps éloigné de tous les jeux d'enquête et tout ça, et depuis des jeux comme Wizard Dead ou ce genre de choses, j'essaye de m'y remettre, et c'est vrai que ce jeu-là a vraiment quelque chose.
Complètement. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est ça qui m'a fait penser à Root Wizard Dead, qui est un jeu où finalement on fait aussi de l'identification de personnes suivant des indices et retrouver les photos. En fait, on a des documents, on doit fouiller, etc., pour retrouver plus d'informations et valider l'identité de certaines personnes. Donc on est clairement dans cette logique-là, avec une narration très très différente, évidemment.
Oui, bien sûr.
Des secrets et des secrets des fois bien sombres de famille ou quoi. Dans le cas de Root Wizard Dead, là on est sur des secrets d'autant plus compliqués puisque ça concerne des nazis qui ont fui, mais voilà, c'est on va vraiment dans cette direction-là et c'est très cool d'avoir nouveau jeu qui vient proposer quelque chose d'un petit peu différent, mais qui vient s'appuyer sur des mécaniques qui fonctionnent bien avec, qui vont très bien fonctionner si l'écriture suit. Et pour l'instant, ce que nous a montré la démo, c'est que l'écriture suit.
Ouais. Et pour l'instant, la meilleure pub du jeu, c'est le fait que le lead dev de World is at Dead a dit que c'était super. Le lead dev de Case of Golden Idol a dit que c'était super aussi.
Et que Lucas Pope,
lui-même, qui a fait Robradine, a dit que c'était super. J'ai envie de dire, quant à ces trois-là, où c'est quasiment les meilleurs jeux du style.
Il y a un peu côté name dropping, justement. Regardez, notre trailer, c'est. Regardez, ces mecs-là, ils ont kiffé notre jeu.
En même temps, tu joues à la démo, tu comprends.
Des arguments.
Si c'est vrai et que du coup il a demandé la validation de est-ce que je peux mettre ça dans mon trailer, vous êtes d'accord, et que les gars ils ont dit oui, faut le faire.
Carrément. Moi j'y serais pas allé sans ça, honnêtement.
C'est un des éléments qui m'a fait m'intéresser au truc, même si je regardais un petit peu tous les jeux d'enquête machin. Ouais. Et j'ai vu ça tout de suite, j'ai fait ok, vas-y, c'est parti.
Bettina.
Le deuxième jeu qui m'a tapé dans l'œil, c'est Truckful. Donc c'est un jeu dans lequel on conduit un pick-up pour faire des livraisons et accomplir des quêtes pour les villageois. Donc en fait, on va conduire à travers une campagne.
Moutons.
Oui, il y a les moutons.
Terroriste ton jeu.
On conduit à travers une campagne accueillante et chaleureuse, mais
pas du tout.
Mais quel jeu tu parles?
Mais la forêt en scène.
Ça suffit les fake news.
Mais laissez-moi parler, putain. On prépare des chroniques ici. Oh, je reprends. On conduit à travers une campagne accueillante et chaleureuse, mais la forêt ancienne et à sa périphérie renferme des choses bien inquiétantes et mystérieuses. En fait, au fil du jeu, on va pouvoir améliorer son camion et sa capacité de charge pour pouvoir aller plus vite et mieux aborder des routes exigeantes. D'autant qu'il faut prendre soin de ses cargaisons, les fragiles mais aussi les instables qui peuvent tomber en chemin. Et voilà, le jeu promet des secrets à découvrir, des mystères à élucider et de la narration environnementale. En tout cas, les graphismes sont vraiment super beaux et vraiment c'est surtout les éclairages en fait qui magnifient les décors. C'est vraiment superbe. Et aussi ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression qu'on ne verra jamais le personnage qu'on incarne, parce qu'en fait on ne voit que le pick-up. Peut-être qu'on incarne directement le pick-up. Est-ce que c'est un pick-up vivant? Allez savoir.
Vu le reste de l'univers, on sait pas.
Je veux rien spoiler. De toute façon, je ne connais que la démo. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper curieuse. Et effectivement, il y a un petit côté un petit peu flippant, un petit peu terrifiant. On croise des choses qui font un peu peur dans cette forêt.
Qui font vroom-vroom et qui font peur.
En fait, c'est vrai que la manière dont tu as décrit ce jeu, c'est comme si je disais que Dredge, c'est un petit jeu de pêche tranquille, où tu vas te promener dans la baie, puis tu pêches tes petits trucs, et puis c'est cool.
Tu rentres après.
Mais la nuit, ça fait peur.
Nuit, ça fait un petit peu peur, et voilà. Mais pour le coup, c'est pas par hasard que je cite Dredge, parce que je trouve qu'il y a une vraie filiation entre ces deux jeux, voilà.
Exactement.
Disons que j'ai eu un peu de mal avec les contrôles du jeu. Parce que c'est la fameuse conduite, qu'on dit relative et pas positionnelle.
Oui, tu vas pas dans la direction où va réellement le véhicule, tu vas à droite, mais par rapport au fait qu'il aille tout droit.
La caméra est comme une caméra de cinéma, en fait, dans le sens où elle n'est pas derrière la voiture.
C'est du travelling.
Ouais, c'est ça. Et du coup.
Et je sais que oui, effectivement, en fonction. Ça dépend beaucoup des gens. Ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont capables de pas avoir de problème dans la gestion de l'espace comme ça. Et des gens, effectivement, ça bloque un peu.
De toute façon, je conduis hyper mal dans les jeux vidéo. Du coup, ça me change pas.
Ouais. Mais oui, mais on va dire que quand. On va dire, le jeu te met dans une certaine situation d'urgence.
Oui. Oui, oui. Ah bah c'est la panique.
Sans en dire plus.
Bah, ça fait tout derrière toi.
Hein. Hein, oui,
Bah c'est le platane direct. Hein, oui, oui.
Ah, je peux dire que je me suis mangé du muret. Hein. Merci Bettina. Romain, quel est ton deuxième jeu?
Bah moi je vais terminer donc avec Vultures, Scavengers of Death. On dirait effectivement le nom d'un groupe de métal et de son premier album.
Pas un bon.
Non. Ah, ou alors des années 80, avant que le nom soit déjà...
Oh, le glam pourri.
Voilà, exactement. Et bah écoute, c'est un survival horror tactical en tour par tour au style horreur et rétro, sans surprise de personne. Puisque ce sera aussi l'esprit du premier jeu dont j'ai parlé. On est vraiment sur une esthétique pixel art PS1, jeu d'horreur Resident Evil 1. Donc voilà, avec ces angles de caméra un petit peu flippants aussi, ces personnages un peu carrés aussi, et puis du sang un peu partout, puisqu'en fait ça se passe dans un commissariat transformé en restaurant pour zombies globalement. En fait on est au début de l'infection zombie, quoi, de l'apocalypse zombie qui commence, et on est des membres en fait d'un commando d'élite. On est un personnage envoyé sur place pour aller chercher un scientifique qui s'est réfugié au commissariat au début de la crise.
D'accord, donc pas du tout comme dans Resident Evil 2.
Absolument.
D'accord.
Et du coup, voilà, et on va retrouver en fait le gars qui s'est réfugié là-dedans, donc on doit traverser le commissariat pour le retrouver et savoir un petit peu, apprendre un petit peu ce qui s'est passé.
Vraiment, rien à voir.
Je vois pas du tout de quoi tu parles. Et donc oui, on est clairement dans un Resident Evil Tactics, puisque c'est un jeu en tour par tour tactique dans lequel on va donc utiliser nos points d'action pour combattre les zombies. On peut sont sur un système de cases, les zombies se déplacent, ils nous tapent dessus, on peut les pousser, on peut jouer avec l'environnement pour les bloquer dans des coins. On a une arme à feu, il faut recharger nos munitions. Là aussi, on est vraiment dans un esprit plagiat, hommage au Resident Evil, mais avec cette logique du tour par tour tactique qui fonctionne plutôt bien en vrai. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la réalisation. Elle est assez simple, assez basique, mais il y a quand même suffisamment de richesse tactique et de richesse de déplacement, etc. On peut courir, on peut aller lentement, on peut aller discrètement pour se faire repérer ou pas. Enfin, voilà, il y a beaucoup de petites choses. Et la démo, il y a peut-être une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de contenu, ce qui est déjà pas mal. Il y a un côté très horrifique hein, dans l'atmosphère, dans les sons, etc. C'est assez bien foutu à ce niveau-là. Il faut savoir un petit peu dans quoi on va. Mmh. C'est développé par deux devs qui, j'ai pas trouvé spécialement plus d'informations sur d'où ils viennent, mais c'est édité par Fire Squid, un éditeur donc principalement de jeux de stratégie tactique que j'aime beaucoup aussi personnellement, qui a en tout cas édité pas mal de choses intéressantes et dont j'ai envie d'avoir confiance parce que j'ai trouvé vraiment la réalisation intéressante, même si entre guillemets techniquement c'est très minimaliste, c'est très rétro. Ils vont vraiment surfer à fond sur cette vibe rétro et sur le côté un petit peu les films d'action des années 80 avec tu vois les attitudes et les discours et les dialogues qui vont avec.
Je me souviens notamment des dialogues au tout début dans une sorte de camion quand ils arrivent et tu dis ah ouais c'est vraiment les années 80 avec les one-liners et tout quoi.
Alors c'est moins violent que dans un jeu que j'avais fait un survival horror que j'avais fait en stream à l'époque qui est sorti il y a quelques mois, mais effectivement où là c'était encore pire parce que c'était une équipe et là c'était vraiment un festival de clichés, de personnages clichés. Là c'est un peu moins ça, mais il y a quand même un petit peu
j'ai pas joué à la démo, j'ai vu quelqu'un qui avait joué à la démo, effectivement le début me faisait penser à ça.
Le côté tactique se fait que ça pourrait me plaire, je sais pas, mais ça pourrait me convenir en tout cas parce que j'aime pas les jeux d'horreur, parce que j'aime pas le sentiment d'urgence et vraiment c'est la panique et du coup là le fait que ce soit en tactique il y a plus ça du coup et ouais ça pourrait peut-être, faudrait que je regarde.
Oui c'est la même chose, pourquoi je pourrais jamais jouer un Alien Isolation, un Xenonaut, pourquoi pas tu vois. Alors que c'est les mêmes, c'est un peu.
On est un peu dans les mêmes ambiances. Oui, voilà, je comprends la logique. Ouais. Mais voilà, Vultures, Scavengers of Death. En tout cas, moi j'ai.
Yeah!
Et vu que j'ai fini la démo, et que je m'étais inscrit sur le, chez l'éditeur, enfin il y a un éditeur entre guillemets qui s'appelle Pantaloon, dont on reparlera à l'occasion, mais qui s'intéresse aux jeux un petit peu différents, un petit peu décalés, un petit peu bizarres, qui avait fait un trip du genre ok, vous finissez la démo, vous nous filez votre mail, si vous finissez la démo, on vous envoie le jeu quand il sort. Donc j'attends de voir.
Okay.
J'attends de voir si je recevrai le jeu, mais c'était effectivement un truc assez ponctuel et assez spécifique. Il fallait être inscrit à la newsletter de Pantaloon pour le savoir. Okay. Mais ce serait cool qu'un jour j'ai l'occasion de reparler de ça, parce que c'est un éditeur intéressant.
Ça marche.
Et assez récent.
Eh ben, merci Romain. Je vais, moi, terminer avec mon deuxième jeu qui s'appelle Eternal Life of Goldman.
Ah oui.
Qui est un platformer. Un jeu de plateforme qui a pour caractéristique principale d'être beau à crever, putain.
C'est incroyable. Non mais c'est une dinguerie.
Les animations sont folles et en fait.
On est du côté Disney pour le situer un peu visuellement, tu vois.
Non.
Alors pas vraiment. Non. Alors c'est un peu compliqué parce que.
En fait c'est du
cartoon.
Dessin animé quoi.
Vraiment. Ouais 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 c'est du dessin. Ouais. C'est vraiment un dessin animé que tu joues quoi. Mais par contre c'est un très très beau dessin animé.
C'est en fait
pas ambiance années 30 comme Cuphead.
Non mais on va dire qu'il y a un côté un peu pulp dans l'animation, tu sais, ce côté un petit peu flottant qu'il y avait dans les années 40, dans les cartoons des années 40, des Fleischer, les trucs que tu trouves avec les Betty Boop, ce genre de choses.
Dans
les animations. Par contre, en termes de richesse et de décor, non, c'est des trucs vraiment beaucoup plus modernes que tu vas trouver plutôt dans les années 80.
Ce qui est incroyable, c'est que du coup, il se passe tellement de trucs à l'écran.
Il y a des trucs de partout.
C'est tellement riche.
Tu as joué toi aussi?
J'ai pas joué, mais j'ai regardé Mister MV y jouer et du coup parce que c'est pas mon genre de jeu comme ça les plateformers 2D c'est pas
comme je t'ai dit j'ai un problème mental donc
oui c'est vrai
sur les plateformes comme je disais juste en antenne à Bettina que en gros les jeux où faut persévérer ou qui sont un peu trop vénères en général j'abandonne vite sauf les plateformers où je peux aller très très loin dans l'automutilation
dans la persévérance
au-delà
du raisonnable
oui voilà typiquement Super Meat Boy j'aurais jamais dû le finir j'ai fini quand même donc voilà.
Mais du coup, la réflexion que je me faisais, c'est que justement, je n'y jouais pas et je me disais, putain, heureusement que j'y joue pas parce que, en fait, mes yeux, partout où ils vont, il y a des trucs à regarder.
C'est trop joli. C'est super joli. En fait, c'est vrai qu'il y a un côté qui fait. Ça peut faire penser à Cuphead, sauf que Cuphead, et c'est vraiment un run and gun. C'est-à-dire que tu sautes et tu tires sur des trucs.
Et là, c'est un boss rush aussi.
En plus, un boss rush, il y a très peu de niveaux comme ça. Voilà. Là, on est vraiment sur un jeu de plateforme beaucoup plus à l'ancienne, c'est-à-dire que t'as pas d'armes pour tirer sur quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment les plateformes. Si tu veux buter des ennemis, il faut sauter dessus. Vraiment un platformer à l'ancienne, avec le bonus pour ceux qui connaissent et qui ont joué à DuckTales, c'est-à-dire que tu as une canne et que c'est avec ça que tu vas pouvoir rebondir, que en plus tu as des systèmes de mouvement un petit peu différents qui font que tu vas sauter de façon différente et il faut vite maîtriser un peu tout parce que la démo elle te met pas confort.
Oui.
Elle te met pas confort. Est-ce que j'ai aimé ça? Oui, j'ai aimé ça. Et le truc en plus la démo est extrêmement généreuse parce qu'il y en a pour une heure et demie facile hein, parce qu'il y en a t'as plein de biomes différents t'as des choix et ce qui est bien c'est que tu pourras dire vas-y c'est cool c'est t'es de la plateforme vas-y mange ta plateforme et tout mais en plus il y a une narration qui est super intéressante j'en dis pas plus mais si vous avez aimé Princess Bride c'est pour vous.
Ok.
Voilà. Mais on est dans ce plat et tu subodores des trucs, des sujets un peu plus vénères derrière et tout ça et des manifestations à l'écran de. Ouais, non, ça a l'air super bien. J'ai très très hâte. Le seul truc enfin, c'est pas que j'hésite, mais j'ai pas trop d'infos, c'est le studio. Le studio s'appelle We Happy Studio. Ce sont les gens qui ont fait This Is Police.
Ok.
Et ce sont des gens qui sont basés à Chypre.
Mmh. Oui, c'est des anciens studios russes qui s'est délocalisé.
Et ben, on sait pas, en fait. C'est-à-dire, alors, je dirais oui d'un côté, mais non aussi parce que, en fait, quand tu regardes les crédits, beaucoup de noms hispaniques. Beaucoup, beaucoup.
Bon, ça a peut-être beaucoup évolué aussi.
Voilà, donc on sait pas trop. C'est un peu le côté nébuleux. Et bon, les studios chypriotes et maltais, de manière générale, voilà. C'est
comme les influenceurs à Dubaï. Hein, bon, on sait pas.
Alors eux, ils savent. Hein.
Voilà. Ouais,
voilà. Mais voilà. Mais oui, Eternal Life of Goldman, probablement le prochain jeu. Enfin, quand il sort, ça va être un des prochains jeux de plateforme que je vais suivre. Je sais qu'il faut que je me prenne Mio avant, mais voilà.
Yes. Eh ben écoute, c'était cool.
Oui, ça fait du bien de parler des jeux.
On peut parler des jeux qu'on attend, qu'on a vu, qu'on a.
Écoute, je trouve que cette émission a été assez exceptionnelle parce que, eh ben, on a tous respecté nos timings.
Grave. Exactement.
C'est de la folie. Comme quoi, il suffit de menacer.
Bah oui. C'est ça. Nous, on sait faire avec Bettina. Oui.
Tu veux qu'on reparle de l'heure à laquelle t'as commencé l'émission, espèce d'escroc ?
Ben voilà, exactement.
Voilà, comme chaque semaine, on remercie le collectif.
Ça menace.
Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game. Et Radio Canu pour l'accès au studio. On vous rappelle aussi que très prochainement, c'est-à-dire le 24 mars, dans 12 jours, aura lieu le Sex Nerd et Troc'n'Roll qui est notre quiz qui aura lieu au Troquet Taquin qui est juste à côté de la place Satonnet à Lyon que si vous voulez vous réserver, vous tapez Troquet Taquin, vous allez sur les réseaux sociaux du Troquet Taquin et que vous pourrez réserver directement là-bas. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un truc qu'on n'a pas encore décidé, mais ce sera super bien.
Ce sera très bien, peut-être moins fun, mais...
Écoute...
Moi je dirais que l'actualité ne manque pas.
Ouais, bah c'est ça.
De
c'est
trucs
ça.
Pas fun.
C'est
ah
ça.
Oui.
C'est ça.
Ouais, peut-être qu'on aura des nouvelles de Nacon d'ici là.
Ouais, vraiment donc le fun. Vraiment, le fun est total.
Le fun jusqu'au bout, au fond du fun.
Ça marche. Eh ben, merci Bettina, merci Romain.
Merci Xavier,
merci à vous deux.
Et à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.